Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Avec Iris, une intelligence artificielle qui sait lire la langue des signes. Et on va en parler avec mon invité, le PDG cofondateur d'Ives, Pascal Dupuis. Bonsoir Pascal.
Bonsoir François.
Merci d'être là.
Avec plaisir.
Intéressant évidemment ce que vous faites. Il faut savoir que j'ai quelques chiffres concernant la surdité. 7 millions de personnes sourdes et malentendantes en France. 430 millions dans le monde. Hein, ça c'est l'OMS qui nous donne ces chiffres. 80% des handicaps sont invisibles. 300 langues des signes dans le monde.
Oui.
Je pensais que, alors ça je ne savais pas, je pensais qu'il y avait une espèce de... on va dire, d'homogénéité dans les langues.
Alors, il y a une langue universelle.
D'accord.
Souvent, les gens nous font cette remarque en disant, mais comment se fait-il qu'il y ait plusieurs langues? C'est la culture. Hein, la langue des signes, c'est une culture avant tout. Il se trouve que dans le monde, tout le monde ne parle pas le français. On a remarqué. La langue des signes, c'est pareil. Si je prends l'exemple du Canada où on travaille, il y a deux langues des signes. Une langue dédiée à la partie anglophone, qui est l'American Sign Language, et une langue dédiée à la partie franco-québécoise ou québécoise-française.
Et est-ce
la langue des signes québécoise.
Donc un sourd ou un malentendant français ne peut pas communiquer avec un sourd ou un malentendant américain, où il y a malgré tout, on va dire, un mode de conversation dégradé.
Alors quand ils ne maîtrisent pas la même langue, alors ça dépend des écarts, c'est toujours pareil, entre le sourd japonais et le sourd français. Par contre, ils se questionnent pour dire moi je dis ça comme ça et moi je dis comme ça, etc., etc. C'est vrai qu'on peut retrouver quand même dans les langues un tronc commun, mais bon, plus ou moins important.
D'accord. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous faites.
Oui.
On va rentrer dans le vif du sujet. Parce que grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous avez créé le premier assistant conversationnel en langue des signes au monde.
Oui.
Alors, expliquez-nous, racontez-nous comment ça fonctionne.
Alors, ça part d'une réflexion à la base où, quand on a créé la société, on voulait faire des 0 et des 1 qui ont du sens. Donc du coup, on a monté cette société dédiée à la communication accessible pour les personnes sourdes et malentendantes, où là, on n'a pas encore, au début, d'intelligence artificielle, hein, c'est 2006. Je rappelle, en 2006, la vidéo, les téléphones, Android n'existent même pas.
L'iPhone sortait un an après.
Exactement. Donc on est un peu précurseur, on est découvert parce qu'on a un système de vidéo de communication direct assez performant. Là-dessus, il y a des gens d'une grosse société qui s'appelle Orange qui viennent nous voir. Et là, on se lance et on fait 3 moyens de communication qui permettent aux sourds et malentendants d'adresser via la téléphonie des contextes différents. Soit on est au travail, on peut travailler avec son collègue, on a une solution pour ça. Soit on veut appeler un service de relation client et on appelle et on a rendu accessible. Soit on est accueilli dans un guichet et on peut discuter avec la personne qui nous accueille. Pour faire ce service, j'explique ça pour bien comprendre
bien
là où on va.
Est-ce que vous avez une vraie histoire dans
ce domaine-là ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu dans l'IA comme ça,
non,
parce qu'on avait envie de venir dans l'IA. D'abord, on a compris comment fonctionnait et de quoi avaient besoin les personnes sourdes et malentendantes et comment on pouvait leur apporter de l'autonomie.
Mm-hmm.
C'est notre créneau, c'est ça. Comment on peut apporter de l'autonomie aux personnes sourdes et malentendantes.
Et déjà ça fait des trucs incroyables.
Voilà, oui, notamment pour le texte, c'est-à-dire que quand une personne oralise, on peut via le téléphone, on peut mettre une solution qui permet de faire du texte. Ensuite, le sourd signant, lui, il est obligé d'écrire. D'accord. Donc nous, on fait ce service de communication. Pour faire ce service de communication correctement, on fait ce qu'on appelle du relais de médias, c'est-à-dire que je suis sourd, je veux vous joindre, j'ai besoin d'une personne au milieu de notre discussion, qui sont souvent des interprètes, etc.
Donc on voit la télévision,
pour
les discours,
exactement,
etc.
Qui sont des personnes importantes et dont nous on est focus là-dessus, c'est-à-dire que pour nous l'IA va pas remplacer ce métier-là, loin de là. La sensibilisation de l'interprète dans une réunion, l'IA c'est assez, même si on essaie d'y mettre de l'émotion, c'est quand même non sensible.
Alors racontez-nous, c'est-à-dire que malgré tout vous vous substituez à cette langue des signes, comment ça marche?
Alors comment ça marche? On s'est dit, quels sont les contextes où on pourrait utiliser l'IA dans lequel on retrouvera pas les métiers comme les interprètes. Et le premier contexte qu'on a vu, c'est ce chatbot. Ce chatbot. Nous, entendant, on va sur les sites, sur le numérique. Hein, je rappelle, vous devez l'avoir comme info, les personnes signantes ont du mal à lire et à écrire. Elles savent le faire, mais c'est pas leur priorité. La langue maternelle de ces personnes, c'est la langue des signes. Donc on s'est dit, pour le numérique, il y a peut-être des choses à faire. Et on a commencé par ce signbot. Et on s'est dit, tiens, comment on va apprendre à une machine la langue des signes? Pour cela, on l'a fait donc avec une équipe de R&D, data scientist, ingénieurs, docteurs, qui font de la LLM, enfin, etc. Plus une équipe de personnes sourdes et malentendantes qui bossent avec nous de manière continue, à qui on a écrit des logiciels pour que eux puissent peut-être dire bonjour 1000 fois. De manière à ce qu'on puisse se dire, si on a une caméra devant, derrière, comment ça se passe? Si j'ai juste un téléphone et que je dis bonjour, est-ce que je suis capté de la même manière? Donc c'est un travail de labeur fait par des personnes.
Mais vous pouvez me donner un exemple concret de ce que vous apportez au quotidien pour quelqu'un qui est sourd ou malentendant grâce à ce que vous êtes en train de mettre en place, grâce à Iris?
Oui, bah Iris... Je veux, par exemple, appeler demain une société. Aujourd'hui, cette société, pour pouvoir l'appeler, ce que je disais, je suis obligé d'appeler, de passer par une interprète.
Oui.
Les interprètes, ce sont des gens humains qui aussi dorment.
Oui, oui.
Peut-être que je vais pouvoir, par cet avatar, laisser un message, d'accord, en langue des signes, et permettre demain d'être appelé par ce conseiller de manière à ce que je puisse avoir la réponse. Alors, ça peut être une réponse sur je sais pas moi, ma box télécom, une information, peut-être j'appelle l'école et demain on me rappelle via un interprète en me disant ben voilà.
Mais c'est-à-dire que je vais me filmer avec en m'exprimant avec des signes,
oui,
avec le langage des signes,
oui.
L'IA va comprendre,
oui, reconnaît
les signes,
reconnaît,
et va traduire ça en
non
langage
reconnaît.
En langage vocal.
Mais elle me répond. Non, elle me répond en signant.
D'accord.
On apprend, via tout le travail que l'on fait de collecte de données, on apprend également à cette IA à répondre. Aujourd'hui, on est dans des environnements contrôlés. C'est pour ça qu'on a choisi aussi les chatbots avec nos partenaires Soprasteria et IBM. C'est parce que c'est des environnements qui sont contrôlés, le chatbot. D'accord? Derrière, il y a une IA.
Oui,
nous, on utilise cette IA.
Mais c'est de l'IA générative ou est-ce qu'on est encore au chatbot qu'on voit de temps en temps sur certains sites
web?
On va
nous progresser en même temps que les chatbots vont progresser. C'est-à-dire que ça va devenir de l'IA générative. Et nous aussi, on va essayer... En tout cas, c'est ça notre objectif, de permettre à notre solution d'apprendre par la collecte de données et par l'échange qu'elle aura avec les personnes sourdes et malentendantes.
Comment vous imaginez l'avenir justement avec l'IA générative? Comment un sourd et malentendant pourrait communiquer avec une personne qui...
Aujourd'hui,
normal, en fait.
Oui, bien sûr. On a parlé là tout à l'heure de solutions de texte. D'accord, existante. Où je vous dis, moi, ça m'arrive tous les jours de prendre une solution de texte, d'avoir une personne sourde, d'oraliser. Ce que j'oralise est écrit et la personne sourde me répond en écrivant. Donc ça se fait tous les jours.
Ça se fait très facilement.
Ouais. Demain, nous, on l'a montré au CES, on a la capacité à intégrer dans le téléphone Iris et on va pouvoir signer et donc on aura du texte et j'aurai du texte et demain, bah, Iris me répondra à moi, personne sourde. Voilà.
Et on peut imaginer que ce texte soit transformé en voix.
Bien sûr.
Pour que finalement, la personne qui fait des signes, puisse communiquer de manière orale avec quelqu'un.
Alors la personne qui est sourde et sourde, elle oralise pas.
Non, mais la personne qui est en face et qui est normale et qui entend pourrait comprendre ce qu'elle dit par la voix. C'est ça que je voulais dire.
Les trois canaux de communication qui pourraient être le texte, la voix, d'accord, et le geste, vont être demain intégrés pour répondre selon multimodal, selon le profil de la personne qu'on aura en face. Si moi je parle à Iris, bah elle va comprendre que je lui parle, elle pourra peut-être me répondre. D'accord? Si je signe à Iris, elle va comprendre que je suis signant, elle va me répondre en signant.
Ouais.
Si je mets du texte, elle va comprendre que je veux du texte, elle va me répondre avec du texte.
Ouais, ça ouvre des perspectives incroyables.
C'est assez intéressant.
Ouais.
Je sais que nous, justement, comme on a une société quand même qui a 18 ans, qui est rentable, aujourd'hui, cette intelligence artificielle, on sait qu'on a pour objectif de créer une société en France, d'accord, et puis d'aller commercialiser aux États-Unis avec une autre entreprise. C'est clair.
Merci beaucoup, Pascal.
Merci.
Pour cette innovation. Ça s'appelle Iris et ça a été présenté jeudi dernier, en fait, hein, je crois.
Oui, il y a plusieurs présentations. Il y en a une autre chez IBM le 16.
Très bien.
Le 16 mai.
Voilà. Bien, merci d'être venu sur le plateau nous présenter tout ça. Vous êtes le PDG cofondateur d'IVES